Et bonjour à toutes et tous, c'est Philippe Caillert qui ouvre les portes de son entre ludique aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, on s'est rencontré à la sortie de Small World, donc là on parle de 2009, hein, c'était fin 2009 juste.
C'était, oui, il y a 2 ans.
Et donc là, tu avais on a eu le plaisir de t'accueillir en soirée terrible où tu venais avec ton prototype, on n'avait même pas encore vu les boîtes. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, puisque Small World, maintenant, on peut le dire, est une de tes plus gros succès, puisqu'on a dépassé les 100 000 boîtes en décembre. Est-ce que tu sentais que tu touchais quelque chose qui allait vraiment rencontrer le public au moment où tu as repensé ce qui, à l'époque, était Vinci, et maintenant qui est Small World?
Avant de sortir, non, pas spécialement. Je suis reparti du jeu, enfin de ce qui marchait bien dans le jeu. Je n'ai pas dit je vais prendre Vinci et je vais le modifier. Ça, j'avais déjà fait une fois. Et j'avais abouti à un jeu beaucoup plus complexe en fait que Vinci et qui finalement marchait bien sur Internet quand on a bien le temps de réfléchir, mais autour d'une table, ça ne marchait pas.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Vinci, de Vinci à Small World, tu t'es fait plaisir en premier et ça veut dire quoi? Que tu étais surpris du fait que ça marche aussi bien?
Oui, quand même, parce que bon, j'avais envie de le faire, ça c'est clair. J'aime bien la fantasy, dès qu'on parle de pouvoirs spéciaux et tout ça, ça marchait bien. J'aurais plus de liberté qu'avec un contexte plus historique. Et puis j'avais gardé l'idée de ma première idée, c'est de voir chaque fois un peuple avec un adjectif derrière et tout ça. Voilà, c'était juste drôle.
Ok, et donc Days of Wonder à surfer sur la vague, on va dire, puisque on a quand même vu, on est à 3 extensions de personnages maintenant, plus un jeu de cartes, et on voit maintenant arriver la version Underground, dont tu vas nous parler. Ça veut dire que c'est quelque chose que Days of Wonder t'a demandé de continuer à développer, ou c'était des choses que tu avais enlevées à l'époque pour garder une certaine simplicité pour la première version?
Ça ne va pas vraiment enlever, mais quand tu développes un jeu, il y a toujours plein d'idées, ben, il faut un peu, tu sais pas, tout creuser. Donc voilà, j'ai toujours un paquet de notes, j'ai toujours un espèce de document plein de notes où je note toutes les idées, que on verra peut-être plus tard si j'ai le temps. Il y avait déjà quelques cartes et tout ça, il y avait des trucs en plus, mais bon, j'avais pas tout développé. Des idées de pop aussi, j'en avais plein, mais bon, on ne pouvait pas en mettre 200 dans la boîte, ça, c'est une question de matériel. Donc là déjà, effectivement, j'avais dû un peu choisir. Ouais. C'est le qu'on mettrait pour avoir un tout cohérent, mais voilà, il restait des trucs à explorer.
Ouais. Et donc on l'a vu dans les parties à explorer, on l'a vu à Essen en octobre 2010. L'extension avec le Nécroman, est-ce que c'est sorti sur le marché ou c'était quelque chose de confidentiel sur Essen?
Non, en fait c'est sorti comme un bonus dans les magasins pendant les fêtes. Ouais. C'est une extension, c'est pas coopératif, hein, c'est simplement un joueur qui a un autre rôle, qui joue un peu contre tous les autres, mais les autres gagnent toujours avec leurs points séparément.
Ah oui, okay.
Simplement, c'est une menace un peu commune. Hein. Ouais. Si on le laisse faire, ben, il va gagner parce qu'il a des gros atouts.
Et ça, c'est une idée que tu avais dès le début ou c'est venu en disant, en voyant le succès du jeu, ce serait une idée de...
C'est une idée que j'avais vaguement, mais ça, j'avais d'abord pensé une version avec un ennemi commun, mais qui ne serait pas géré. Qui serait géré par le système. Quoi. Puis finalement, ça allait mieux en mettant un joueur à la tête. Puis, bon, quand on a parlé d'extension, évidemment, j'ai repensé à celui-là. Je l'ai un peu creusé.
Ça veut dire que Days of Wonder a vu passer énormément de propositions d'extension et c'est eux qui ont finalement choisi ou tout ce que tu as proposé est passé?
Non, tout a fini par passer.
Chausse-pied. Alors là, on parle donc l'actualité directe. Donc on est en mai 2011. On parle de Underground. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? On a vu passer une boîte, par exemple, sur Trick Track, où c'est un stand-alone, mais ça se passe ailleurs. Donc Underground, on a une petite idée. Mais c'est quoi l'idée, en fait?
Oui, donc à la base, c'est deux idées différentes qui auraient pu faire soit deux extensions, soit une grosse extension. Finalement, on a grossi, on a un stand-alone. Il y avait d'une part, j'avais envie d'un peu changer le paysage, quoi, la géographie. Le paysage est assez plat par les montagnes. Il change un peu quand certains peuples ont besoin des plaines, des collines ou ça. Et donc là, différents types de terrains que j'ai un peu testé. Celui qui marchait le bien, c'était la rivière, c'est celui qui se retrouve dedans. Donc un peu comme une rivière. Enfin, quand on pense géographie un peu naturelle, il y a les montagnes et il y a les cours d'eau. C'est un peu le premier truc qui arrive. Quoi.
Et donc, on dit underground parce que justement, ça se passe sous le sol. Là, on a le quel est le pitch, comme on dit, de cette extension qui est standalone, justement?
Oui, c'est ça, on est dans un monde souterrain, donc tout va se passer avec des peuples un peu plus de l'ombre, tout ça.
Mais c'est le même concept, où il y a des nouvelles règles, où il y a une nouvelle manière de jouer. Justement, la présence de la rivière inclut, enfin, induit certainement d'autres manières de jouer.
Mais donc, à la base, c'est la même chose, mais tu as deux choses en plus, justement, cette rivière et d'autres terrains, c'est simplement des blocs impassables. Et puis, tu as le système des objets magiques. Donc ça, c'était un peu aussi une idée que j'avais depuis longtemps, c'était d'avoir des objets avec des grands pouvoirs, mais qui ne soient pas attachés à un peuple. C'est pas, on a le peuple sans pouvoir et encore un troisième. C'est des trucs qu'on pourrait se piquer, évidemment. Des objets, une fois qu'ils sont déterrés, ben, ils restent là jusqu'à la fin de l'histoire, quoi.
Ça veut dire quoi? Que les objets sont placés sur le plateau au départ et qu'on va les découvrir?
En fait, les peuples oubliés qui peuplaient le plateau en début de partie ont disparu, ils sont remplacés par des monstres qui sont plus forts, mais qui gardent chacun soit un objet, soit un lieu légendaire. Donc dès qu'on prend ces régions-là, l'objet ou le lieu est découvert, et là, il fait partie du jeu jusqu'au bout. En fait, les lieux et les objets fonctionnent un peu de la même façon, sauf que les lieux sont fixes. Donc tous les pouvoirs qui n'avaient pas besoin de bouger, mais sont devenus des lieux. Il y en a plus que ce qui est nécessaire pour le jeu, donc ça fait un peu de variation. Il y en a une quinzaine en tout. Il y en a 5, 6, 7 qui sont découverts à chaque partie.
On peut avoir quelques exemples de ces lieux, de ces objets magiques?
Oh, on a un anneau. Donc on le place sur une région et toutes les régions autour doivent payer tribut. On a un tapis volant qui permet de faire des grands sauts.
Tu disais on peut se piquer ces objets, comment est-ce qu'on peut se les piquer?
Ah, celui qui prend la région où il y a un objet, ben, il récupère l'objet ou le lieu.
Et que les peuples ne se déplacent pas avec l'objet, ne quittent pas la région avec l'objet.
Quand les objets sont déplacés quand ils sont utilisés, mais ils sont toujours sur le plateau.
Oui,
J'ai utilisé un objet, ben, je l'ai placé là où je l'ai utilisé. Les lieux, forcément, ne bougent pas. Et donc, ils sont toujours attachés à une région. Si le peuple doit faire retraite, ben, il laisse son objet sur place. Même chose s'il disparaît, s'il part en déclin.
Et donc le principe d'un tour de jeu est le même, on choisit un peuple au départ basé sur une pile de 5 et on est parti et on fait évoluer de cette manière-là. Pas de la même manière que le Small World classique, on va dire.
Oui, c'est ça. Donc c'est un cran plus complexe puisqu'il y a plus de combinaisons dû au pouvoir des objets magiques. Mais sinon, oui, c'est le même jeu à la base. Et ils seront compatibles. En fait, à un ou deux peuples près qui n'ont pas d'équivalent.
Compatible, ça veut dire qu'on peut mélanger les deux boîtes?
Oui, c'est ça. Donc on peut soit prendre, enfin en tout cas tous les peuples, on peut mettre les objets magiques dans Small World, sur la carte de Small World, il n'y a pas de problème.
On va bientôt s'acheter une étagère Small World. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Small World continue sur sa lancée et qu'il y a encore des choses qui risquent d'arriver. Days of Wonder met des choses sur la table en disant tiens, ce serait pas mal si on allait dans cette direction-là ou est-ce que Underground est... Tu penses que c'est un point final sur Small World et qu'on passera à autre chose après?
Ça, je ne sais pas dire pour le moment. Donc moi, tant que ça m'amuse, ben voilà, je suis prêt à le faire, en tout cas. Donc oui, j'ai encore des idées, ça, il n'y a pas de problème.
Venez, venez. Ok, et donc ça, Underground, c'est prévu pour
Début juin, normalement.
De jouer sous la plage. Parfait, merci Philippe, et à très bientôt.
Au revoir.
Alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.